Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, rejoignez-nous pour lancer le débat sur l'antenne des RFI. C'est la libre antenne, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. 33 9 693 693 70, toute l'actualité nous intéresse, donc n'hésitez pas, lancez le débat. Beaucoup de réactions encore ce matin, je le disais à l'instant, sur la révision constitutionnelle au Burkina Faso. Vous savez que c'est jeudi prochain que le pays saura si son président pourra se présenter à l'élection de l'année prochaine. Le gouvernement a adopté donc un projet de loi prévoyant un référendum constitutionnel pour permettre à Blaise Compaoré d'être à nouveau candidat. Il s'agit de modifier ce fameux article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Issaka, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous faites partie des centaines d'auditeurs qui nous ont contactés pour participer à la Libre Antenne sur ce dossier, sur cette question. Vous, comment vous réagissez donc à cette initiative et surtout à la perspective d'un référendum constitutionnel ?
Nous sommes catégoriquement contre cette modification parce qu'en fait, nous voulons qu'enfin, au Burkina Faso, on ait une politique avec alternance. Parce qu'on trouve que c'est la meilleure solution comme ça. La meilleure solution, parce que en fait, ceux qui disent qu'ils veulent toujours que Blaise Compaoré reste au pouvoir, c'est qu'en fait, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les bienfaits de l'alternance politique. C'est ça qu'ils ne savent pas. Mmh. Parce que Blaise Compaoré, il est resté 27 ans au pouvoir et on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui se passe, en fait, c'est autour de lui. Il est devenu comme un dieu du Burkina Faso. Voilà. Il est devenu comme un dieu du Burkina Faso. Chaque Burkinabé qui se lève le matin, qui veut faire quelque chose, il pense soit à la famille présidentielle, soit au clan du président, soit au président lui-même, ouais. Parce qu'il est le seul qui peut résoudre le problème.
Issaka, en même temps, vous le savez bien, et mieux que moi, puisque vous êtes sur place, c'est que constitutionnellement, rien ne s'oppose à la révision de l'article 37.
Mais, Monsieur Rouen, si vous dites que c'est légal, même là c'est douteux, je peux dire que c'est légal au moins, on sait que c'est pas du tout légitime. Voilà. Et si on revient sur la légalité, l'article dit qu'en fait le président peut appeler le peuple à un référendum sur un problème d'intérêt national. Monsieur Rouen, dites-moi, le problème de Blaise Compaoré, est-ce que c'est un problème d'intérêt national? C'est un problème personnel, oui ou non?
Et en même temps, si toutefois...
C'est un problème d'intérêt national.
Enfin, moi, je n'ai pas à répondre, évidemment. Je ne suis pas là pour ça. C'est votre point de vue, surtout, qui nous intéresse, Issaka. Mais en admettant que les députés adoptent le projet de loi et qu'un référendum soit effectivement organisé, vous, en tant que citoyen burkinabé, vous pourrez voter non le jour du référendum?
Je peux voter non le jour du référendum, mais on ne voit même pas l'utilité d'organiser ce référendum-là. On ne voit même pas sa place là-bas, parce que en fait, la Constitution même ne dit pas au président d'appeler au référendum pour défendre ses propres intérêts. Mmh. C'est comme s'il disait qu'il appelait au référendum pour construire sa propre villa, ou bien pour soigner sa maman qui est malade, ou bien des trucs comme ça.
Ouais. Issaka, on va donner la parole à d'autres compatriotes burkinabés. Surtout, ne raccrochez pas. Roland nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes burkinabé, vous nous appelez d'Abidjan, hein, Côte d'Ivoire. Et vous, vous insistez sur l'importance du référendum.
C'est bien cela. Bonjour à RFI et tous les auditeurs de RFI. En effet, le Burkina Faso, qui est un pays sous-développé, a besoin de pouvoir s'exprimer et la population qui a tant été vraiment omise puisse passer comme ça au référendum et décider si Blaise ou pas puisse gérer ou rester au pays. Voilà un peu.
Donc pour vous, c'est le meilleur moyen de trancher sur cette question qui, on voit bien, suscite des tensions depuis de nombreux mois. Le meilleur moyen, c'est d'organiser un référendum. Comme ça, chacun se prononce et s'exprime.
C'est bien cela. Il faut bien que chacun se prononce. Parce qu'en fait, Juan, ce que plein de Burkinabés ignorent, le Burkina, c'est pas la Côte d'Ivoire. Vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand il y a eu des gens qui ont appelé à des manifestations, qu'on a brûlé des pneus sur des goudrons, Mais écoutez, le PIB ivoirien est plus élevé que celui du Burkina. Mais au Burkina, je vous assure que c'est seulement les voies principales qui sont bitumées. Des gens qui se demandent, qui se font appeler opposition, appellent cette jeunesse là, l'instrumentalise, et cette jeunesse va brûler des pneus. Hormis cette voie, il n'y a plus de voie au Burkina.
Ouais, donc vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de dire attention à l'appel lancé par l'opposition, cet appel à la désobéissance civile, ça risque de compromettre encore davantage le développement du pays.
Eh bien, bien sûr, Juan. Parce qu'en fait, regardez, j'expose en une minute.
À peine, oui.
Voilà que des gens qui se demandent, qui se disent opposition, qui ont eux tous, pour la plupart, hein, je vous dis, ont été députés ou ministres de Blaise Compaoré. Si aujourd'hui on accuse Blaise Compaoré de crise économique, cela veut dire que eux, ils ont participé aussi à ce crime-là, n'est-ce pas, ce crime économique. Alors, quelle éducation cela peut nous donner? Ils sont en train d'instrumentaliser la jeunesse. Ils envoient cette jeunesse-là à l'abattoir. J'ai pu voir des photos. Moi, j'ai découvert le Burkina à peine en août. Mais c'était triste. Réalité.
D'accord.
Alors, on peut instrumentaliser cette jeunesse.
Très bien, Roland. Merci à vous. On remercie Issaka et on aura l'occasion, évidemment, la semaine prochaine de revenir sur ce référendum constitutionnel puisque c'est jeudi que le texte sera soumis à l'Assemblée nationale et on verra, évidemment, si le texte est adopté, ou pas. En tout cas, l'opposition, elle dénonce un coup d'État constitutionnel. On en parlait à l'instant avec, Roland. Elle appelle à la désobéissance civile. Il y a d'ailleurs une première journée de grève nationale prévue, mardi prochain. 33 9 693 693 70. Chantal, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo, vous nous appelez de Goma. Et Chantal, vous avez un coup de gueule contre la MONUSCO, contre les casques bleus qui sont déployés dans votre pays. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, hein, puisque cette semaine, il y a eu de violentes manifestations dans l'est de la République démocratique du Congo pour demander même le départ de la MONUSCO, qui est accusée de ne pas avoir empêché les récents massacres. Et vous aussi, vous ne comprenez pas ce que font les casques bleus dans votre pays.
Oui, en effet, Juan. Tout d'abord, je m'en vais envoyer une pensée pieuse aux familles des victimes à Beni. En l'espace de 3 semaines, on a perdu plus de 80 compatriotes massacrés, tués dans des conditions sauvages, inhumaines par des rebelles à Desnalou. C'est inacceptable au regard de tout l'armement que détient la MONUSCO, la plus grande mission onusienne au monde.
20 000 hommes déployés sur le terrain, effectivement.
Oui, et c'est depuis plus de 10 ans en RDC, avec un budget incroyable de plus de 1 milliard de dollars chaque année. Et donc, moi, je me dis que le gouvernement congolais devrait, cette fois, décider de demander à cette mission soit d'agir ou de partir carrément. Ouais. Comme ça, on saura si on est pris en charge par notre armée, les FRDC.
Et excusez-moi Chantal, quand le patron de la MONUSCO déclare cette semaine, ça ne vaut pas la peine de prendre la MONUSCO comme bouc émissaire. Vous réagissez comment?
Oui, mais la MONUSCO a une logistique incroyable, avec près de 17 000 hommes, un budget colossal de 1 milliard de dollars par an. Et donc, si seulement on prenait cet argent et le donnait à nos militaires FRDC, je pense qu'on pourrait même parler des forces négatives au Congo. Mmh. Et donc, ils sont là en train d'assister des tueries, en train d'observer. C'est inacceptable, c'est impensable. Mmh. Nous sommes vraiment fatigués. Je pense qu'il est temps que la MONUSCO puisse soit agir, s'impliquer sur les champs de combat. Et ne pas seulement se limiter à appuyer les FRDC avec une logistique.
Ouais. On aura l'occasion d'en parler, Chantal, ce sera justement notre débat de lundi matin. Donc si, comme Chantal, vous êtes mécontente, effectivement, du comportement des casques bleus, ou si, au contraire, vous estimez qu'ils garantissent d'une certaine façon votre sécurité, eh bien, appelez-nous, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le débat de lundi. On parlera donc de l'action des casques bleus en République démocratique du Congo. Tiens, on va continuer à parler de l'Est de la République démocratique du Congo, et surtout d'un personnage, d'un homme qui mérite véritablement d'être sous le feu des projecteurs. C'est le docteur Denis Mukwege qui a obtenu enfin un prix international, celui des droits de l'homme de l'Union Européenne, le prix Sakharov. Longagui, bonjour.
Ah oui, alors bonjour Juan, bonjour. C'est Monsieur Longagui Biemba du Danemark.
Du Danemark, vous nous appelez de quelle ville?
Je vous appelle de la ville de Herning.
Herning,
si on peut le dire en français.
Très bien. Bah, écoutez, soyez le bienvenu et merci de nous écouter. Alors, vous avez été, vous, sensible au choix de l'Union européenne pour le prix Sakharov, hein?
Oui, bah, ce que je voudrais dire, c'était que c'est bien vraiment au Parlement européen d'attribuer le prix Sakharov au docteur Mukwege. C'est bien surtout pour les femmes qui sont honorées de la RDC et du monde entier. Mais je pense que le Parlement européen ferait mieux de s'attaquer aux causes de cette violence faite aux femmes. Parce que, monsieur Erwan, la violence faite aux femmes n'est pas une maladie, tu vois. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une violence faite volontairement aux femmes par les hommes, par les gens qui sont conscients qui font mal aux gens. Tu vois ça?
Oui,
et je pense que le Parlement européen doit faire une pression sur les gens qui soutiennent, qui arment ces bandes armées qui violent les femmes comme ça. Mmh. Hein, et aussi faire une pression au Rwanda qui est connu officiellement par plusieurs rapports de l'ONU, des droits de l'homme et l'Ouganda et aussi les autorités congolaises.
Vous attendez davantage de l'Union européenne, mais au moins le fait d'obtenir ce prix permet d'interpeller l'opinion publique internationale. Parce que c'est vrai que c'est un conflit, nous on en parle beaucoup sur l'antenne des RFI évidemment, mais c'est un conflit qui est souvent oublié ailleurs dans le monde. Donc le fait d'attribuer le prix à Denis Mukwege, ça permet voilà de mettre en avant un l'action de ce gynécologue et de deux la situation dans l'est de la RDC de Nimukwege que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Voilà, on le salue évidemment, je sais qu'il écoute régulièrement RFI quand il en a la possibilité et en 15 ans, ça fait maintenant 15 ans hein, qu'il aide les femmes dans l'est de la RDC, qu'il a ouvert cet hôpital à Panzi près de Bukavu, et bien en 15 ans plus de 40 000 femmes violées et mutilées ont été accueillies grâce à Denis Mukwege. Merci de nous écouter, Longagi, bonne journée au Danemark. Oumar, vous êtes à Bamako, bonjour.
Bonjour, Juan.
C'est la Libre Antenne, vous êtes le bienvenu, évidemment. Le Mali a enregistré son premier cas d'Ebola, premier cas confirmé. C'est une petite fille de 2 ans qui est venue de la Guinée voisine. Elle a été placée en quarantaine à Kaye, dans l'ouest du pays. Et vous, en tant que Malien, vous dites attention surtout, attention à la psychose.
Oui, bon, moi quand même, je pense qu'on ne doit pas céder à la psychose, d'autant plus que le Mali aujourd'hui est un pays, bon, à 99% musulman, parce que déjà nous sommes traités et préparés psychologiquement par rapport à la propriété. Ça, c'est un. De deux, maintenant, le Mali avait commencé depuis la télé nationale à faire des campagnes de sensibilisation par rapport au virus Ebola depuis qu'on n'avait pas enregistré notre premier cas. Ça, c'est deux. Maintenant, le troisième cas, c'est maintenant, il faut que les Maliens aujourd'hui changent de comportement, soignent leur comportement et se conforment aux critères de l'OMS. Donc, on traite ça pas nationalement, mais internationalement. Au fond, qu'on mondialise notre comportement par rapport au traitement du virus Ebola.
Ouais, vous avez confiance, Oumar, aujourd'hui, dans le corps médical malien?
Oui, moi je fais réellement confiance au corps médical malien parce que il faut voir le Mali fait frontière directement à la Guinée et depuis combien de temps on n'avait pas eu notre premier cas. Et il y a eu des pays qui ont fermé leurs frontières, qui ont enregistré leur cas depuis combien de temps avant le Mali.
Et alors justement, on sait que la fermeture des frontières est un sujet polémique, contesté, et il est loin de faire l'unanimité. En tant que citoyen, maintenant qu'il y a eu ce premier cas confirmé, est-ce que vous attendez de la part de vos autorités qu'elles ferment la frontière commune avec la Guinée?
Non, je ne pense pas.
Non.
On ne doit pas fermer la frontière parce qu'on n'avait pas fermé, on n'avait pas le virus.
Oui, oui. Mais maintenant qu'il y a le premier cas, vous dites qu'il faut maintenir encore la frontière fermée malgré tout.
Non, il faut pas fermer.
Non, mais
il faut seulement changer de comportement.
Changer les comportements. En tout cas, si vous nous écoutez au Mali, vous vous posez la moindre question sur le virus Ebola, un numéro de téléphone, un numéro vert d'urgence a été mis en place par le ministère de la Santé. Je vous le donne, 8088 88 88 8088. C'est un numéro qu'on redonnera évidemment dans nos différentes éditions d'RFI Afrique. Merci Oumar, merci à vous de ce témoignage, de cet appel. Nous en parlions il y a deux semaines dans la Libre Antenne, la pénurie de carburant à N'Djamena, au Tchad, dans la capitale. Djiber, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Rouen.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Je le disais tout à l'heure avec d'autres auditeurs, c'était un des sujets de la Libre Antenne il y a maintenant 15 jours. Vous constatez une amélioration? Il y a de plus en plus d'essence dans les stations-service?
En fait, j'ai cette impression, mais malheureusement, ce matin, en quittant la maison pour aller au travail, je constate sur l'avenue Charles de Gaulle, tout comme sur le boulevard du président Pompidou, de très longues queues qui attendent devant des stations d'essence pour se ravitailler. Donc malheureusement, cette situation persiste et cela a des conséquences absolument négatives sur la productivité du pays, du simple citoyen, sur nos ménages, sur notre travail. Donc c'est une situation que nous ne la voulons pas et qui nous fait extrêmement mal.
Et vous constatez... Vous constatez la flambée, une flambée des prix ou pas? Parce que quand il y a pénurie, forcément, les prix grimpent.
Ah ouh là là, les prix sont passés du simple au double. Aujourd'hui, en N'Djamena, quand vous passez à côté, si vous voulez vous ravitailler en dehors des stations de service, le prix de l'essence est jusqu'à du simple au double. Dans les provinces, n'en parlons pas. Tout le système est arrêté. Donc c'est une situation qui a fait que nous ne comprenons pas le mutisme dans lequel s'est exilé le gouvernement. Ni le ministre de la Communication, ni le ministre du Pétrole, ni le ministre du Commerce. Personne d'entre ces trois ministres-là n'a fait état. Et il y a eu une carence extrêmement grave de communication de la part du gouvernement. Et cela a suscité une vague souterraine de rejet, de mépris du gouvernement qui se dissimule sur la surface. Ouais.
Je précise quand même à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde que s'il y a pénurie d'essence depuis maintenant 2-3 semaines à N'Djamena, c'est à cause de l'arrêt de la production de la raffinerie de Djermaya à 40 km de N'Djamena pour permettre une révision des installations. Donc cette fermeture pour maintenance doit même durer 45 jours. Donc ce n'est pas prêt de se terminer. Merci beaucoup Djiber de nous avoir interpellé sur votre vie quotidienne et celle de nombreux habitants de N'Djamena. Il nous reste encore 4 minutes. Nous allons, si vous le souhaitez, parler de la situation en Centrafrique. Là aussi, vous avez été quelques-uns ce matin à nous appeler pour nous dire ce que vous pensez du climat sécuritaire qui s'est dégradé, puisque ces deux dernières semaines, les violences ont fait une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés, rien qu'à Bangui, dans la capitale. Syriac, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Vous souhaitiez témoigner de la situation à Bangui et surtout nous dire la confiance que vous avez malgré tout encore dans les autorités de transition.
Oui, je réaffirme que j'ai confiance à ce gouvernement qui a la lourde responsabilité d'amener ce pays aux élections et le plus rapidement possible. Mais pour ça, il faut que la communauté internationale s'implique davantage, met la pression et fait une orientation. Ça va beaucoup aider le gouvernement actuel. Même s'il a fait déjà 10 mois et que la situation sécuritaire s'est dégradée, je crois que la première des choses à faire, c'est de mettre sur pied rapidement, et c'est ce que j'ai entendu, une force d'intervention rapide.
C'est ce qu'elle veut faire. C'est ce que veut faire la présidente Catherine Samba-Panza. Elle a annoncé cette semaine aux députés, devant le Conseil national de transition, qui fait office de parlement. Donc vous pensez que c'est la meilleure solution, c'est ça, c'est de mettre en place cette unité rapide d'intervention.
Mettre sur pied cette unité rapide d'intervention, c'est une solution, c'est une part de solution, parce que cette intervention-là va contenir les forces nationales qui sont déjà victimes de toute cette tracasserie et qui connaissent mieux leurs frères qui sont impliqués dans cette affaire-là, je crois.
Donc vous dites, si je comprends bien, parce que c'est intéressant ce que vous dites, et malheureusement on a 30 secondes avant de conclure, Syriac, vous dites l'armée centrafricaine est mieux placée aujourd'hui que les casques bleus pour défendre notre territoire et assurer la sécurité.
L'armée centrafricaine est mieux placée avec l'appui de la communauté internationale qui ont les moyens. Ce qui nous manque, c'est les moyens de matériel. Alors la force internationale et matériel, s'ils mettent ces matériels à la disposition de l'armée centrafricaine et même les forces indonésiennes qui sont là s'impliquent dedans, je crois rapidement on va trouver une solution.
Merci Syriac, bonne journée à vous, merci à tous de votre fidélité. Lundi, je vous le disais tout à l'heure, le débat